Bien, nous voici donc partis sur la cinquième vertu, le zèle. Alors, je voulais mettre deux zèles, mais j'ai oublié de les prendre. Mais voilà, le zèle, c'est pour aller loin, normalement. La simplicité qui considère la relation à Dieu, l'humilité, relation à soi, la douceur, la relation à l'autre, la mortification pour intensifier tout ça, et le zèle pour être de vrais missionnaires, comme vous le voyez là, avec la tête de Saint Vincent. Enfin, il a tout un élan, il part et il montre le Christ. Avec la, en bas, Evangelizare Pauperibus, c'est-à-dire je suis envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la mission de la congrégation de la mission. Voilà. Et la sixième vertu, c'est quand même la charité qui a été d'un bout à l'autre de nos rencontres. Alors je suis un peu pris de dépourvu parce que j'avais marqué pour moi-même rajouter le texte et j'ai oublié de le rajouter. Donc je suis obligé de vous le dire que de tête. Saint Vincent, pour parler du zèle, il parle d'abord de ceux qui ne sont pas zélés. Et alors, bonjour, hein. Il a des propos... c'est marrant parce que c'est ça qui est intéressant dans les écrits de Saint Vincent. C'est pas lui-même qui a écrit ses conférences. Enfin, c'est lui-même qui les disait, qui les préparait. Mais comme il voulait pas qu'on fasse de nouvelles publications et tout ça, parce que c'était une période où il y avait florès de nouvelles publications, et qui mieux en latin, en grec, en hébreu, en araméen. Saint Vincent dit non, la grande... tout ça, c'est pas pour nous. Nous, c'est le peuple des campagnes. Il faut être simple. Donc, il voulait pas de nouvelles choses. Et donc, quand il faisait ses conférences aux confrères, il y en avait un qui était caché derrière le pilier et qui notait tout ce qu'il disait. C'est comme ça qu'on a ces conférences. Et les filles de la charité, elles faisaient pareil. Et alors, ce qui est marrant dans celle-là que j'avais prévu de vous lire, c'est qu'il... à un moment, il dit, il mime. Alors, il met les mains sous les aisselles. Oh, il fait trop froid. Oh, il fait trop chaud. Oh, ben non, je vais pas y aller parce que j'aime trop mes aises. Et puis, je suis mieux comme ça à l'intérieur que d'aller là-bas dans les intempéries. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de zèle, qui se trouve toujours des excuses pour ne pas aller au service du plus pauvre. Et donc, voilà, il a toute une tirade qui est assez intéressante. Mais ça vous donnera l'occasion de venir au berceau, je vous la montrerai. Et donc, il dit, ceux qui sont tièdes, et du coup, il reprend l'expression de l'Apocalypse, hein, dans l'Apocalypse, carrément, Dieu vomit les tièdes. Donc, il vaut mieux être froid ou être chaud, mais tiède, c'est pas bon. Voilà. Bon. Donc, il faut oser entendre ça de la part de Saint Vincent. Bon, ceci dit, je crois que je vais déjà un peu raconter son itinéraire. Hein. Il n'a pas été de suite, tout jeune, à pétri par le souci des pauvres. Ce n'est qu'à 36 ans qu'il a commencé. Mais avant 36 ans, il avait quand même eu cette relation aux pauvres, puisqu'il était aumônier de la reine Margot. C'est-à-dire que la reine Margot avait trop d'argent, donc elle donnait à ses aumôniers, et les aumôniers avaient la charge de faire que cet argent-là soit bien géré. Mais donc, il faisait un peu comme un fonctionnaire, quoi. Et, sans vouloir s'impliquer dedans. Bon, et c'est donc en 1617 que tout bascule. Et je me disais que c'était intéressant d'entendre tout ce qu'il a fait à partir du moment qu'il a compris que servir les pauvres, c'est servir Jésus-Christ lui-même. C'est vraiment fondamental en Saint Vincent. Et là-dessus, il ne s'appuie que sur l'Évangile. On pourrait presque dire qu'il y a deux catégories de personnes. Certains que je vais montrer maintenant. Voilà, de qui il s'est occupé. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres dans les villes. Mais en campagne, il n'y avait presque personne. Donc les premiers qui s'étaient occupés, c'est les pauvres des campagnes qui étaient délaissés. Et à chaque fois que je dis pauvre, c'est un générique chez nous, hein, chez les Vincentiens. Pauvre, ça veut dire spirituel et corporel. C'est l'un ou l'autre. Hein. Donc il a dit aux confrères, nous on n'a pas allé dans les diocèses, enfin dans les villes épiscopales, ça il y a suffisamment de prêtres, mais on va vraiment à la campagne. Donc ça, ça a été les premiers dont il s'est occupé, si on peut dire d'une manière active. Et puis de travailler à leur faire découvrir qui est Dieu, et que les amener aussi à se réconcilier avec Dieu et se réconcilier les uns avec les autres. La réconciliation est très forte aussi chez nous, ça, dans notre tradition, l'importance du sacrement et de faire qu'aussi qu'entre les gens, ça puisse aller mieux. On a des très très beaux témoignages à ce niveau-là. Ensuite, il a été investi par le roi via à Richelieu au départ comme aumônier général des galères. Voilà. Alors les galériens, c'était des moins que rien, c'était mal considéré. Et bien pourtant, voilà, ils ont pris conscience que même s'ils ont fait des choses mauvaises, bien, ils ont quand même une âme qu'il faut qu'ils sauvent. Et donc, il a organisé des missions sur les galères. Et quand il va à Marseille, c'est un peu fou parce que Marseille-Paris, aujourd'hui, c'est 3 heures. Mais à l'époque, vous imaginez? Et pourtant, il y allait. Hein. Moi, je suis ébahi de ça, quoi. Il s'aperçoit qu'ils ont des conditions de vie, mais plus que déplorables, vraiment inhumaines. Et il arrive à trouver les financements pour monter un hôpital spécifiquement pour les galériens à Marseille. Donc il faut voir tout. Voilà, si c'est pas juste ça, ben ça serait bien qu'il y ait un petit hôpital ou qu'il y ait une petite bonne sœur qui s'occupe de. Non, non, carrément un hôpital avec toute l'infrastructure qu'il faut. Bon, il n'y avait pas les scanners à l'époque quand même, mais bon, ça demandait. Mais après, quand il est principalement sur Paris, pour gérer un peu sa congrégation, tiens, il y a des guerres, comme toujours, et il y a des réfugiés. Parce qu'en Picardie, en Lorraine, il y avait la guerre, et les réfugiés, ce n'est pas une mode d'aujourd'hui, déjà à l'époque. Et donc, il accueille les réfugiés. Ça veut dire, il faut leur trouver la nourriture, il faut leur trouver le logement. Et puis ensuite, de quoi faire pour qu'ils puissent s'assumer par eux-mêmes, qu'ils ne soient pas désassistés. Ça, il insistera beaucoup là-dessus. L'importance de ne pas être désassisté, on leur donne des outils pour qu'ils puissent travailler. Mais en discutant avec les réfugiés, il comprend que presque ce sont les mieux lotis, parce qu'il y a ceux qui sont restés là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Elle est sœur, elle est confrère, allez au boulot, vous allez là-bas. Et ils partent en Lorraine, en Picardie, pour soigner directement les personnes sur les champs de bataille, ou prendre soin des pauvres où tout a été ravagé. Voilà. Il y a un frère qu'on appelait, il s'appelait Régnard, mais du coup on le surnommait le frère Renard. Il a fait 19 voyages entre Paris et Metz, enfin sur la Lorraine plus largement, où il amenait vraiment beaucoup beaucoup d'argent et pas une seule fois il s'est fait détrousser. Pourtant, des brigands, il y en avait de partout. Et celui-là, c'est pareil, sa spécificité, c'était d'être capable de se planquer. Il s'occupait donc des prisonniers, des indigents, des vieillards aussi. Là, c'est pareil, il a monté des maisons pour des vieillards. Et puis, une de ses grandes œuvres, ça a été ce qu'on a appelé les œuvres des enfants trouvés. Enfin, l'œuvre des enfants trouvés. Hein, les enfants abandonnés au fond des églises parce que on n'avait pas les moyens de les faire vivre, on n'avait pas les moyens de les nourrir. Eh bien, ça devait être dramatique aussi pour les parents, hein. On a des enfants, et pour que les plus grands vivent, on se débarrasse du dernier, quoi. C'est terrible. C'est terrible. C'est facile de juger. Voilà. Et Saint-Vincent, il bouge là-dessus. Et en quoi est-il zélé dans tout ça? C'est qu'il va travailler à lutter contre les mentalités. Parce que de fait, les galériens, on n'en a rien à faire. Voilà, ils ont été punis. Les enfants trouvés, on disait « Ah, c'est des enfants du péché. » Comme ça, on allège notre conscience. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, hein, c'est comme ça, hein, les enfants du péché. Et Saint Vincent va s'insurger là-dessus. Mais vraiment, il va s'insurger. En disant, si vous voulez honorer Dieu, il faut que vous preniez soin de eux en priorité, parce qu'ils sont vulnérables. On les laisse 2 jours, ils sont morts. Et en plein hiver, quelques heures. Donc il fait changer les mentalités en disant ce sont les privilégiés de Dieu. Je vous dis ça sur la question du zèle pour dire tiens, quelles sont les pauvretés, on en parlera peut-être après, mais il faut sortir de nos schémas pour essayer d'entendre vraiment où est la force vive de Dieu. Et il aurait pu s'occuper uniquement des gens qui sont en France, mais non. Assez rapidement, avec les confrères, ils sont appelés ailleurs. Donc ça va en Irlande, ça va en Écosse, ça va en Italie, ça va même jusqu'en Pologne, parce qu'en fin de compte, il y avait une jeune princesse qui était à Paris, qui a connu les Filles de la Charité, et quand elle est devenue reine de Pologne, elle a écrit à Saint-Vincent en disant « Je veux des Filles de la Charité et des Lazaristes pour le peuple polonais ». Et ça n'a pas suffi, il fallait aller jusqu'à Madagascar, à l'époque. Et c'est fou parce que la plupart des confrères qui ont été là-bas, en quelques mois, à cause de la météo, enfin de... comment on appelle ça ? Du climat, merci, ils ne tenaient pas et ils mouraient très rapidement. Et Saint-Vincent, il disait, il faut quand même continuer à y aller. La force du zèle, parce que pour lui, ce qui est la pauvreté de ces peuples, c'est qu'ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est surtout ça. Est-ce que quand on pense pauvre, est-ce qu'on pense ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ? À creuser. Bon, toujours pauvreté spirituelle et matérielle. Et par exemple, quand les sœurs s'occupaient des vieillards ou des malades, fort malades, ils leur disaient bien, voilà, vous vous occupez du corps et vous leur parlez aussi de Dieu. Et s'ils peuvent être rétablis, eh bien, vous les préparez à ce qu'ils soient de bons chrétiens. Et si vous voyez qu'ils vont défaillir, vous les préparez à ce qu'ils aillent rencontrer le bon Dieu. C'est-à-dire, on prépare à la mort. Voilà, on est capable de faire face à ça. Ça fait partie de la vie. Et il insistait parce que, même à l'époque, pourtant c'était quand même tous chrétiens, hein, mais il y en a qui avaient du mal à parler de la foi. Aujourd'hui aussi. Mais c'est vrai qu'on sort des guerres de religion entre catholiques et protestants, donc la religion n'avait pas très bonne presse, puisque ça faisait des morts, et du coup ils étaient peut-être plutôt à ne pas trop dire, et Saint-Vincent va insister là-dessus. Bon, ça c'est à peu près les personnes qu'il va secourir. Et puis en parallèle de ça, qu'est-ce que fait Saint-Vincent ? Eh bien, il va créer des structures pour justement honorer carrément ce travail sur du long terme. C'est pas simplement un petit coup de feu à un moment, oh, le pauvre, tout ça là. Et du coup, la première création, ça va être les Dames de la Charité, qu'on appelle aujourd'hui les équipes Saint-Vincent. Donc ce sont des laïcs, ce ne sont que des femmes. Saint-Vincent, il a essayé avec des hommes, mais ça, pas terrible. Il a essayé avec des mixtes, ça se bouffait le nez aussi. Et donc après, il a décidé, les charités, ce ne sont que les dames, et les dames plutôt de la bourgeoisie ou de la haute, qui s'occupaient de ça. Donc ça a été de sa première création. La deuxième, ça a été nous, les lazaristes, pour les confessions générales, les missions en campagne, et puis après aussi la formation des prêtres. Et puis ensuite les Filles de la Charité, parce qu'il s'est aperçu qu'au bout d'un moment les dames de la haute noblesse là, ben, c'était un peu une mode, c'était bien, mais quand même aller tous les jours au service des plus pauvres, ça faisait un peu tâche quoi. Et du coup après elles envoyaient leurs servantes, mais les servantes c'est pas le même cadre quoi, pas la même motivation, c'est par obligation. Et du coup il a vu non, c'est pas correct. Et comme quoi il fait toujours confiance à la Providence. Un jour, il y a une brave dame, Marguerite Nazot, qui dit « Voilà, moi, je suis une pauvre vachère. J'ai entendu que vous vous occupiez des pauvres. À choisir entre servir des riches et servir des pauvres, moi, pour la gloire de mon Seigneur, je voudrais servir les pauvres. » Une pauvre petite vachère qui avait quand même appris à lire par elle-même, en demandant aux gens, voilà, quand ils voyaient quelqu'un qui savait lire, là, excusez-moi, ça veut dire quoi ? Et c'est quoi la lettre, là ? Et petit à petit, donc c'était une fille qui était mordue, qui était pétrie de Dieu, Et alors là, Saint-Vincent, il dit, ah ouais, il y en a une comme ça, et puis deux, et puis trois. Et donc, avec Louise de Marillac, ils vont créer donc les Filles de la Charité. Et c'est là que ça va faire une expansion extraordinaire. Marguerite Nazo, et qui malheureusement, là aussi par amour d'une pauvrette, elle a partagé son lit avec une qui avait une maladie contagieuse, et elle est elle-même décédée assez rapidement. Alors des fois on pourrait dire, bon ben c'est, ils ont fait des trucs extraordinaires, super, mais on pourrait être presque découragé de dire, nous on n'est peut-être pas là. Mais c'est intéressant aussi de se rappeler qu'il a démarré petitement et puis petit à petit il a progressé. Et ça m'a évoqué Mère Teresa. Mère Teresa, bon, au départ elle est religieuse, à un moment elle a un flash très très fort avec le Christ. Elle comprend elle aussi que servir le plus pauvre, mais vraiment le miséreux de Calcutta, c'est servir le Christ. Et elle n'a pas des grandes envolées, elle va simplement s'occuper d'un seul mourant. Un vieillard mourant, elle l'accompagne jusqu'à ce qu'il décède, pour honorer la dignité de cet homme. Puis après, elle en prend un deuxième, puis un troisième, puis petit à petit, et aujourd'hui, je crois que c'est 5000 sœurs chez les sœurs de... les missionnaires de la charité, qu'elle s'appelle. Bon, aujourd'hui, chez nous, on a Père Pedro Opeka, je ne sais pas si vous avez entendu, à Madagascar. Voilà, ben, il a eu un charisme particulier, puisque son père était maçon, il a appris la maçonnerie, à monter des maisons. Et quand il est arrivé à Madagascar, alors ça c'est très très beau chez lui, il dit non, moi je ne vais pas vous monter les maisons, hein. C'est vous qui allez monter vos propres maisons. C'est votre dignité, vous allez en être capable. Moi je vais simplement vous apprendre à les faire. Et aujourd'hui, il en est, je crois, à 18 villages. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Mais j'aime dire sur la question du zèle et de la mission que... Est-ce que vous savez qui est la patronne des missions en France? La petite Thérèse de Lisieux. Elle est patronne des missions alors qu'elle n'a jamais quitté son couvent. Et elle est morte à 24 ans. Et elle disait, le plus grand acte qui puisse peut-être être, c'est simplement ramasser l'aiguille à tricoter de la vieille sœur qui ne peut plus se baisser. C'est un acte d'amour absolu. C'est intéressant d'entendre ça par la patronne des missions. Parce que des fois, on risquerait d'être découragé. La grande, grande question sur le zèle apostolique, c'est à quoi suis-je, moi, appelé ? C'est ça qu'il faut surtout entendre. Mais bien évidemment, à quoi suis-je appelé, ça veut dire, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu, c'est lui qu'il faut que j'écoute. À quoi m'appelle-t-il ? Saint Vincent, il entend beaucoup Dieu dans les événements, dans les gens qu'il rencontre. Il se laisse déstabiliser, interroger. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et donc, il nous faut toujours apprendre à avoir les yeux qui nous permettent de regarder le monde. N'oublions pas que le Christ est venu sauver le monde. Et lorsqu'on veut être disciple, on veut s'investir pour que le monde soit sauvé. Ah, c'est ça notre mission. Et pour cela, pour vivre selon la volonté de Dieu, je vais vous proposer de commencer par prier avec un psaume que Antoine va nous entonner. Alors voilà, on fera encore en deux chœurs, si vous voulez bien. Antoine commence et on prendra la suite.
Priez de joie pour le Seigneur, ô juste, comme droit à vous la louange.
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harmonicorde.
Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon roi la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve.
Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde.
Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint.
Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples.
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux la nation qu'il s'est choisie pour domaine.
Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes.
Pardon. Du lieu du David, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.
Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour.
Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint.
Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Oui, il est toujours bon de prier. La prière est aussi une mission, hein. Et vous savez que Mère Teresa, donc il y avait les missionnaires qui allaient vraiment dans les lieux, enfin qui continuent à être dans les lieux les plus pauvres, mais elle a rencontré assez rapidement des personnes handicapées qui voulaient aider. Elle dit, je vais vous confier une mission, vous allez prier pour un missionnaire ou une missionnaire particulière. Et donc il y a un va-et-vient permanent, un lien de spirituel entre une personne qui est ici ou enfin, dans, quelque part dans le monde et le missionnaire qui est dans les lieux les plus difficiles. Et donc c'est la force de la prière qui est là. C'est intéressant de dire tout cela aussi. Vous savez qu'au temps de Saint-Vincent, il y avait des... Donc il y a eu beaucoup de ferveur pour remettre l'Église à flot, sortir des guerres de religion et faire qu'il y ait de la beauté dans l'Église. Mais il y en a certains, c'était vraiment centré sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu, ou aussi sur Jésus-Christ, l'importance de Jésus-Christ et tout ça. Mais parfois, en ne prenant pas bien soin justement de l'humanité. Il y a des écrits sur le Christ sauveur, sur le Christ prêtre, sur le voilà. Et l'importance du prêtre, vraiment mis sur un pinacle. Mais voilà, pas toujours. Et c'est pour ça que Saint-Vincent a cette particularité, avec quand même quelques autres, sur « Nous sommes prêtres pour suivre le Christ évangélisateur des pauvres ». Lui, il insiste beaucoup là-dessus. Et il y a quelque temps, ici, là, il y avait une dame, enfin en France, qui redécouvre le Christ, enfin qui découvre le Christ d'une manière très très forte. Vraiment, elle a voilà, ce qu'on appelle les catéchumènes, elle se laisse toucher l'importance du Christ. Je trouve ça extraordinaire. Et puis son accompagnateur lui dit, oui, mais si tu veux aimer le Christ vraiment, parce qu'elle faisait des longs temps de prières et compagnie, il faudrait que... Enfin, Dieu est miséricordieux et il faut s'occuper des pauvres. Alors, elle ne comprenait vraiment pas quel lien il pouvait y avoir entre les pauvres et Dieu. Vraiment. Si, pourtant, il est miséricordieux, Dieu, le miséricordieux, oui. Et un jour, la miséricorde de Dieu, elle l'a lu tout autrement. Et elle a lu, j'aurais dû vous l'écrire, excusez-moi, « La misère est corps de Dieu. » La miséricorde de Dieu, la misère est corps de Dieu. Quand tu touches la misère, tu touches Dieu. Et ça a complètement changé sa vie. Et elle a compris comment elle pouvait aimer le Christ. Et peut-être que ça peut aussi, d'une manière personnelle, nous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre ? Prendre soin de Dieu. Il a décidé que ses disciples, c'est-à-dire nous tous là, nous soyons capables de prendre soin de lui dans le plus malheureux. Et c'est pour ça que Saint Vincent va s'investir dans la formation des prêtres. Parce qu'en campagne, ils étaient vraiment plutôt source de scandale, parce qu'ils n'avaient quasiment aucune formation. Et ils avaient une double vie, enfin voilà, c'était vraiment pas terrible du tout, du tout. Et il va leur permettre de se former pour être des dignes prêtres de Jésus-Christ. Et ça n'a pas été suffisant, parce qu'une fois qu'ils ont... Bon, ils les forment avant la prêtrise, avant l'ordination, mais en fin de compte, comme ils ont beaucoup apprécié ce temps de formation et d'intériorité, une fois qu'ils sont prêtres, ils en redemandent. Et du coup, ils continuent. Et c'est ce qu'ils vont appeler les conférences du mardi. Tous les mardis, les prêtres de Paris, enfin tous ceux qui le voulaient en tout cas, se retrouvaient et ils avaient des entretiens avec Saint Vincent, pas que lui, mais enfin il était quand même principalement là, pour mieux approfondir le mystère du prêtre à la suite de Jésus-Christ. Sans qu'il soit lazariste, hein, c'était des diocésains. Voilà, et du coup, ça peut nous poser la question, comment je nourris ma foi ? Bon, peut-être que ces 5 soirées, ça vous a apporté quelque chose, et que ça rentre dans cette dynamique-là, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Et peut-être qu'il faut écouter de quoi ai-je besoin ? Vous savez, souvent on est avec des frustrations, on se dit, oh, quand j'aurai le temps, je ferai. Quand on est en actif, on se dit, oh, quand je serai à la retraite, je ferai. Et quand on est à la retraite, on ne le fait jamais. Mais c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais davantage approfondir ? Est-ce que ce serait plutôt la Bible ? Plutôt quelque chose en théologie ? En chemin spirituel ? Toutes les questions sociales ? Les discours des papes ? Enfin voilà, quels sont les domaines que j'aimerais alimenter en moi pour me fortifier et pour faire que ma foi soit encore plus forte ? Alors, en quoi s'enracine le zèle chez Saint Vincent ? Le zèle, c'est l'ardeur, hein, vous avez bien compris, l'ardeur de la mission. Bon, bien évidemment, si le zèle de la mission, c'est de parler de Jésus-Christ et se mettre au service du pauvre, alors, on l'a déjà dit, je crois, l'une des dernières fois, quand on se met au service de quelqu'un, il y a quand même une satisfaction. Tout simplement, au niveau ne serait-ce qu'humain, je suis heureux d'avoir pu rendre service à quelqu'un, de faire qu'il aille mieux ou cela. Pour ceux qui sont pétris de Jésus-Christ, ils sont contents aussi quand ils peuvent parler de Jésus-Christ. On est un peu très pudiques, sur nous les cathos, on a toujours un peu de mal à dire notre foi. Et ceux qui arrivent, dans telle ou telle conversation, discussion comme ça, après ils sont heureux parce qu'ils ont parlé de celui qu'ils aiment. Donc voilà, il y a une satisfaction qu'il y a là. Puis c'est la satisfaction aussi de participer à quelque chose qui tire vers le haut. Voilà. L'autre point très très important pour le Christ, mais je l'ai déjà dit, mais c'est important de le réentendre, c'est parce que Jésus-Christ lui-même s'est mis au service des pauvres. Regardez le nombre de fois qu'ils rencontrent des gens qui ont un problème. Des aveugles, des boiteux, des publicains, des pécheresses, enfin, il y a de tout. Et à chaque fois, il se met au service. Notre partage, messieurs, mes frères, sont les pauvres, pauperibus evangelizare misit me. Quel bonheur, messieurs, quel bonheur, faire ce pourquoi notre Seigneur était venu du ciel sur terre. Voilà, se mettre dans la peau de Jésus et dire je fais comme lui. La dernière fois, je vous ai parlé aussi un peu rapidement, je voudrais le redire aujourd'hui, parce que c'est vraiment aussi dans la question du zèle. Nous avons donc une prière qui s'appelle « Espoir d'Israël » chez les Lazaristes, là qu'on dit chaque jour. Et dans un moment, il est dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Et je leur disais « Je suis fils de paysan. » Alors que souvent, on pense que la mission, c'est de défricher, de semer, ou tout ça. C'est le Père qui sème. Et il sème quoi ? Il sème la parole. Nous sommes là pourquoi ? Le Christ, il a besoin de moissonneurs. C'est celui qui récolte. C'est un moment très agréable, très fatigant sûrement. Enfin, ça l'est, parce qu'on fait des jours un peu plus forts que d'habitude. Mais n'empêche que nous avons à vivre la mission pour aller récolter les fruits. Alors je me permets de faire un petit témoignage. J'ai fait 3 ans en Périgord avant d'arriver au berceau. L'évêque du diocèse nous avait embauchés, nous étions 3, pour aller faire de la mission du porte-à-porte dans les petits villages du Périgord. Alors déjà, les Périgords, c'est campagnard, hein. Mais non, particulièrement les petits villages. Bon, d'accord, on va y aller. En fin de compte, il s'était aperçu que les chrétiens avaient perdu le contact avec la population. Les églises, les quelques paroissiens s'étaient assez tournés sur eux et il y avait peu de liens. Et ce qui l'avait assez affolé, c'était le pourcentage à une des votes présidentielles, là, le pourcentage du Front National. Et il dit, mais comment, non, mais attends, sur une terre chrétienne, comment cela est-il possible? Et donc, il nous avait embauchés pour aller à la rencontre gratuite de toute la population. Donc, on commençait avec les quelques petits chrétiens, mais très vite, on était un peu épuisés. Et donc, après, on faisait le porte-à-porte. Alors, bien sûr, on était pris pour qui? Bien évidemment. C'est marrant comme quoi on enferme les gens dans des situations. C'est-à-dire que les missionnaires, c'est Jésus le premier qui a envoyé ses disciples 2 par 2, village après village. Ne nous laissons pas prendre certaines pratiques parce que eux ils sont plus ardents, alors du coup nous on n'ose plus le faire. À nous de le refaire. C'est ça aussi le zèle. J'ose aller voir un voisin ou une voisine.
Et vous êtes arrivé d'être balancé?
Ah oui, on a été souvent balancé. C'est vrai qu'il y a des portes qui se sont fermées assez violemment. Il y en a un coup qui nous a montré une batte de baseball et enfin des trucs un peu, oui ça, on a plein d'anecdotes, mais ceci dit on a bien discuté quand même avec lui. Il y en a un autre quand je lui dis voilà on est prêtre, on vient voir. Oh, vous êtes dans la pire des maisons, je suis un athée convaincu et un anticlérical absolu. Je dis c'est super, moi ça m'intéresse. Et nous sommes restés 2 heures à discuter, il m'a même payé un coup à boire. Et alors, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'en amont, on aurait voulu faire ces missions-là avec des paroissiens locaux. Donc le curé, qui nous avait embauchés, entre guillemets, nous dit, ben voilà, je vous ferai une réunion avec quelques motivés. Bon, il attendait à ce qu'il y ait quand même 15-20 personnes, ils étaient 3. Dans les 3, il y avait un couple. J'ai passé 1h30 avec ces 3-là. Enfin, j'étais aussi avec le confrère, là, avec Christian. Et on leur explique qu'en fin de compte, on veut aller rencontrer les gens simplement pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent. C'est quoi votre vie? C'est quoi vos centres d'intérêt? C'est quoi qui vous donne le peps? C'est toi qui vous donne envie de vous lever le matin? Puis aussi peut-être vos soucis, vos difficultés. On peut aussi en parler. Mais on partait d'entrée de jeu d'abord du positif, parce que le négatif, de toute façon, il arrive toujours. Et Et ce qui est assez étonnant, c'est que les trois personnes qui étaient là, là, ils n'arrivaient pas à comprendre. Puis on leur disait entre autres, ben, si vous voulez, vous pourriez inviter vos voisins pour un café ou pour un repas, puis on discuterait comme ça. Et alors il y avait Huguette qui disait, oh ben alors là, ça c'est pas gagné. Elle était vraiment... Elle n'arrêtait pas de le répéter. Ah ben alors ça là, vraiment ça c'est pas gagné. Alors elle ne voyait pas du tout la possibilité d'inviter des voisins non chrétiens ou loin de l'église, quoi. Hein, qui, voilà. Et alors le lendemain, c'est lui qui me rappelle, il me dit, on a discuté avec ma femme et on ne comprend pas bien. En fait, quand vous voulez qu'on réunisse des gens pour que vous, ensuite, vous les rameniez à l'église. Et c'est fou cette logique de vouloir... Alors d'abord, ramener, ça veut dire qu'ils y étaient déjà. Mais il y a plein de gens, maintenant c'est fini ça. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église. Et surtout en Périgord, il y a plein de francs-maçons, il y a des hindous, il y a des bouddhistes, et il y a plein de trucs très forts là-bas. Et c'est marrant cette idée de vouloir ramener. Il dit non, on ne veut pas ramener. On veut d'abord découvrir les merveilles qu'il y a chez eux. Vous savez bien, et c'est Vatican II qui le remet avec grande, grande force, l'Esprit Saint travaille où il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. L'Esprit Saint n'est pas la propriété de l'Église. On peut espérer qu'il y travaille quand même à l'intérieur. Mais il travaille aussi à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on est capable de s'émerveiller de ce qui se fait en dehors de chez nous ? Première chose, quand on est zélé, Saint Vincent, il le disait, il dit quand vous allez en mission à la campagne, il faut commencer à parler de savoir, tiens, la vache, est-ce qu'elle a bien vélé, les agneaux là, ils sont bien passés, les petits, ils vont bien, voilà, il faut s'occuper. Et François, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut avoir l'odeur du troupeau, hein, le pape François. Il nous dit ça aussi. J'ai bien aimé dans sa première encyclique, enfin sur Laudato aussi, le nombre de fois qui fait référence à des conférences épiscopales à travers le monde. Ça veut dire qu'il s'est beaucoup renseigné à droite, à gauche. Il s'intéresse à ce qui se fait ailleurs. Comment vous prenez ça en charge ? Comment vous voyez cette question-là ? Voyez, il cherche de partout. Il ne croit pas que c'est lui qui a la science infuse. Peut-être que souvent, dans nos manières de faire les choses, c'est un peu ça. Récemment, j'ai encore entendu l'un des jeunes qui était à la pastorale, là, à la pastorale jeune, qui disait, ben moi dans ma paroisse, là, j'aurais voulu venir avec des chants de jeunes, et puis, oh non, c'est nous qui avons l'habitude. Bon, ben vas-y, que continue, quoi. Et si tu laisses pas la place aux jeunes, ben ne te plains pas après qu'il y en ait. Qu'il n'y en a plus, oui, pardon. C'est bien, vous suivez. Dans sa grande aussi encyclique qui est phénoménale, Fratelli Tutti, vraiment c'est une bombe cette encyclique, il faut la lire, hein. La lire et la relire, il faut la méditer. Quatre fois, il cite un grand imam, je n'ai pas retenu son nom, c'est quand même impressionnant qu'un pape fasse référence à un imam, donc à un musulman, pour dire on est capable de faire des choses ensemble. Voilà, et je me dis, on a à creuser. Il nous montre le chemin à travers ces manières-là. Et un autre point aussi, pour être zélé, souvent on aimerait que les gens viennent à nous, mais est-ce que nous sommes capables d'aller sur leur terrain ? Est-ce qu'on va voir ce qui se passe dans telle ou telle association ? Ou telle manifestation ? Est-ce qu'on fait partie d'un club de marche ? Ou un club de belote, ou je ne sais trop quoi ? Pour aller les rencontrer là où ils vivent. Et du coup, ça veut dire que tout ça, ça nous pousse à nous décentrer. Je me décentre pour savoir où Dieu m'invite à... Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais... combien il y a de conversations où on cherche à ramener la conversation à soi. L'autre il commence à parler et puis, ah oui ben moi ça me rappelle et hop et je t'ai piqué la parole. ou quand il y a un décès, il y a un défunt dans une famille, les gens viennent visiter ça. Ah, ma pauvre dame, ah ben oui, votre mari, il est mort, ben oui. Ah ben moi, ça me rappelle mon mari, ben blablabla, ça y est. Ah, c'est, voilà, d'où l'importance de formation. C'est super. Mais c'est vrai. Alors, on peut parler de soi à un moment, certainement, pour que la personne sente qu'on a de la compassion, qu'on est en lien, qu'on comprend aussi. Mais pas vite, quoi. Puis d'abord, la laisser parler. Voilà, après. En fin de compte, ça demande beaucoup, là aussi, la mortification. Je me délaisse par amour pour l'autre. Je m'intéresse à l'autre. Est-ce que je sais rendre grâce, louer le Seigneur, le bénir pour les réussites des autres? Un jour, j'étais dans un groupe de prêtres et il y en a un qui me dit « Moi, je ne sais pas me réjouir de la réussite des confrères. Oh » Et c'est vrai que, puisque j'avais travaillé avec lui pendant quelques temps, systématiquement, il fallait qu'il soit un peu le centre de l'animation ou du truc comme ça. Je trouve ça un peu pauvre, mais bon, voilà. Quand je suis zélé, quand j'ai envie d'aller vers Dieu et de répondre à ses appels, comme Saint Vincent, il faut savoir ne pas faire les choses seul. On n'est pas le dernier des Mohicans, je ne suis pas Zorro à faire les choses seul. Il faut que j'apprenne à le faire avec d'autres. Et du coup, se demander, tiens, est-ce que je suis capable d'appeler? Et comment j'appelle? Pour inviter des gens, que ce soit tel ou tel service, ou telle dimension de mission, d'évangélisation. Là aussi, hein, c'est une dame en Périgord qui redécouvre la foi. Elle vient à la paroisse, elle était pétrie aussi sur la question du service, elle connaissait déjà la société Saint-Vincent de Paul. Elle vient sur sa paroisse avec son idée, dit moi je voudrais créer une conférence là, chez vous. Le curé dit oh ben non, il y a déjà les visiteurs de malades, je vois pas trop l'intérêt. Bon, il n'écoute pas le désir de cette femme et lui propose justement la formation des funérailles. Mais c'était pas du tout son charisme. Donc il faut un peu discerner et ne pas chercher à combler les trous qu'il y a chez nous. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent mourir, il y a des choses qui peuvent naître. Quand on veut inviter quelqu'un, parce que Saint Vincent nous dit, il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon frère ne l'aime. Ou si mon frère, si mon prochain ne l'aime. Donc toujours cette dynamique. Comment je vais faire pour que l'autre puisse aimer Dieu? Et des fois, on voudrait inviter des gens à nous aider, à nous soutenir. Et souvent, on se dit, ah oui, tiens, il y aurait peut-être Madame Trucmuche, là. Et ah oui, non, mais non, parce qu'elle, elle est déjà trop débordée. C'est-à-dire qu'on se donne des barrières, voilà, c'est ça. On s'empêche et on essaie de donner la réponse. Dieu nous demande d'appeler, il ne nous demande pas de répondre. Donc osons appeler, puis la personne a la liberté de répondre oui ou non. Et vous voyez, ça fait tout un tas de travail. Voilà, donc nous avons un beau défi de vivre notre foi et de le vivre dans le service de l'autre. Voilà, et ce chemin nous amène à inviter d'autres personnes sur ce même chemin. N'oublions pas que quand nous parlons, le service et l'annonce, hein, c'est toujours ça, c'est le Christ qui est la parole de Dieu. Et il nous demande d'être ses continuateurs. Je vous envoie dans le monde entier. Parce que on peut se mettre au service, puis dire, ben voilà, on témoigne du Christ en étant au service. Mais il y a des gens qui, en tant que chrétiens, sont dans des associations non chrétiennes, mais ils ne disent jamais au nom de qui ils le font. Par respect, qu'il faut faut rester humble et tout ça. Et c'est tout à la fois beau et en même temps, n'ayons pas peur. Il faut qu'on reprenne cette joie de dire qu'est-ce qui nous pousse à être charitable, qu'est-ce qui nous pousse à être au service. Si toutefois, c'est le Christ qui est votre moteur. Ces jours-ci, j'ai vu un extrait d'un spectacle de Gad Elmaleh. Alors, il a fait un film, Reste un peu, qui est fort intéressant sur l'itinéraire spirituel de quelqu'un qui doit se convertir d'une religion à une autre. Voilà, Reste un peu, c'est un film qui vaut vraiment le coup. Mais il a fait un spectacle, je pense que c'est en ce moment, j'ai juste vu un extrait, qui est fort intéressant parce que, bon, il est arabe, il est en même temps juif et puis il voulait être chrétien. Donc il peut parler facilement des trois religions. Et il dit franchement, chez les catholiques, je trouve qu'il y a un problème là quand même. Je vais vous demander à un juif, est-ce que tu es juif ? Oui, tu me vois avec les trucs, avec les turbans et tout ça, puis tu me demandes si je suis juif. Bien sûr que je suis juif. Et tu demandes à un musulman. Est-ce que tu es musulman ? Wallah Akbar ! Bien sûr que je suis musulman. Voilà. La fierté d'un musulman, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu es catholique ? Ah, alors attends, c'est un petit peu compliqué. Mon père, il était dans une école catholique, mais alors ma maman... voilà. On se donne tout un tas de trucs pour essayer de dire notre foi et on esquive. Et alors voilà, ça vaut vraiment le coup de chercher sur Internet, Gad Elmaleh, religion, vous allez le trouver. Parce qu'il vient pointer tout, avec beaucoup d'humour, plein de petites choses où on a à réapprendre à être à l'aise de parler de notre foi. Ne nous laissons pas enfermer par ceux qui disent que la foi c'est quelque chose de privé. Hein, et nous, parce que nous on l'a tellement intégré qu'on a fini par se priver de foi. Même entre catholiques, des fois on a peur de parler de notre foi. C'est quand même étonnant. Je connais beaucoup de prêtres qui savent animer des groupes de partage, mais eux, ils disent jamais rien. C'est assez étonnant. C'est intéressant aussi de réentendre la parole de Dieu. C'est saint Paul. Parce que des fois, on croit qu'on n'est pas à la hauteur. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes. Ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Si vous trouvez que vous n'êtes pas trop à la hauteur, vous êtes tip-top pour être le disciple du Christ. C'est peut-être intéressant aussi quand on veut appeler quelqu'un ou quand on veut évangéliser, quelles sont mes peurs intérieures ? Quelles sont mes propres barrières ? Et il y a toujours souvent le regard des autres. On a peur de déplaire, on a peur d'être passé peut-être pour fou. Mais justement, saint Paul, il nous dit, n'ayons pas peur. Bien sûr, il y a la manière aussi de présenter, si on veut accueillir quelqu'un dans un groupe de service. Ah, tu veux pas venir m'aider, s'il te plaît, là, parce que franchement, je commence à fatiguer, là. Bah, c'est vrai que si je présente comme ça un service, je vais pas donner le goût. Et franchement, j'en connais qui font comme ça. Hein. Je l'ai déjà entendu. Hein. Et pareil, lorsque quelqu'un va commencer à vous dire « Oui, ah ben oui, moi ça m'intéresse, je veux bien. » Est-ce que je suis prêt à ce que l'autre fasse le même service que moi, mais différemment de moi ? Oh là là. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus en église sur la pointe des pieds, venir découvrir, et au bout d'un moment, ils voient qu'ils n'ont pas leur place. Faisons-y attention à ça. Acceptons de laisser l'autre faire à sa manière. Accompagnons doucement. Et c'est pas grave si au départ c'est pas bien fait. Nous, ça fait très longtemps qu'on fait tout, on sait absolument tout faire, bien évidemment. Et est-ce qu'on sait encore une fois dans le service prendre le temps de... Quand quelqu'un nous accepte de venir avec nous, c'est de prendre le temps de discuter pour relire son service, lui permettre de voir autrement. C'est aussi venir gagner les fruits, récolter les fruits d'un premier service, d'un premier investissement, et lui montrer qu'à travers ça, on accompagne le Christ. Et ça demande toute une pédagogie. Et quand je suis capable de faire tout ça, que je suis capable d'appeler, ben, c'est une occasion de sortir de soi-même. Je sors de ma zone de confort. Est-ce que je prends le temps de prier pour que voilà ce que je demande, parce que j'aimerais, est-ce que ça puisse se réaliser ? Je ne sais plus si je vous avais parlé dans une ou deux autres choses là, mais encore cette conférence et cette femme que je vous évoquais là quelque temps en Périgord, donc elle arrive, en fin de compte elle était chrétienne, elle était partie ensuite dans le bouddhisme, mais à fond, pendant 12 ans, bouddhiste, jusqu'au bout des ans, elle a fait plein de formations et tout ça, et après elle découvre qu'il lui manque quelque chose. Et en approfondissant avec un prêtre, elle découvre que c'est l'importance de la relation au Christ. Donc elle revient à la foi chrétienne. Et puis, donc elle demande à son curé de faire une conférence Saint-Vincent de Paul. Le curé lui dit non, bof. Elle demande quand même à la paroisse, il y a 2-3 personnes qui disent oui. Puis c'était pas suffisant pour faire une conférence. Et du coup, ben, elle va frapper à la porte de ses amis, c'est-à-dire des hindous et des bouddhistes. Ou des gens qui savent pas trop, enfin qui se réfèrent pas à une religion. Et cette conférence Saint-Vincent de Paul à Rouffignac, elle est extraordinaire pour ça, parce qu'il y a chrétiens, bouddhistes, hindous et je ne sais pas trop quoi, comme ils disent eux-mêmes. Hein. Et on a eu des temps de partage extraordinaires. Vraiment, pendant 3 ans que je les ai accompagnés, tous les 15 jours, si dans les groupes chrétiens on avait des partages spirituels aussi intenses que ça, ça serait super. Des fois, nos temps de prière, ils se limitent à lire une prière. C'est dommage. Voilà, le zèle, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi l'antidote du relativisme de notre société ou du défaitisme. Et du coup, voilà, quels sont les défis que j'aimerais relever ? Quelles sont les pauvretés que je vois, enfin, là où vous vivez ? Quels sont les domaines dans lesquels vous direz, tiens, ça vaudrait le coup de s'investir ? Sur un village, sur une paroisse ? Voilà, et encore une fois, est-ce qu'avec d'autres, je peux m'investir ? N'oublions pas Jean-Paul II, combien de fois il a dit, n'ayez pas peur. Voilà. Vous savez que dans Laudato Si, le pape nous parle de la maison commune qui est cette terre. Est-ce que je peux m'investir sur un aspect, par exemple, de l'écologie, de moins de gaspillage, d'une sensibilisation à un mieux vivre ensemble ? Il y a tant de solitude dans notre société. Est-ce que j'ai pas envie de, avec 2-3, tiens, d'organiser des visites peut-être à domicile d'abord ? Et puis ben, encore cette fameuse conférence à Vincent de Paul à Rouffignac, ils avaient commencé comme ça, et puis après ils se sont aperçus qu'ils étaient vraiment très isolés ces gens, et ils ont proposé un café sourire. Tous les 15 jours, la mairie a donné une salle, enfin un peu plus qu'une salle, maintenant c'est carrément la maison qui a été mise à disposition, et donc ils peuvent organiser tous les 15 jours un après-midi où ils font différentes activités. Voilà, ça fait partie des choses possibles. Et en lien avec la mairie, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ici, peut-être l'église verte. Ça ne vous dit pas ? Voilà, c'est la question aussi de l'écologie et comment nos paroisses, elles se mettent au diapason, à la suite de Laudato aussi, d'une économie, d'une saine gestion, tant immobilière que de l'énergie, ou tout ça. Des fois, on dépense beaucoup quand même en église. Hein. Voilà. Saint Vincent nous dit encore, le zèle consiste dans un pur désir de se rendre agréable à Dieu et utile au prochain. Zèle pour étendre l'empire de Dieu, zèle pour procurer le salut du prochain. Voilà à peu près. Je voudrais... on va pouvoir continuer aussi à prier justement pour que ce monde aille mieux. J'espère que vous le connaissez, mais sinon on a quand même la musique de Laurent Griboski, Bâtir un avenir solidaire. Je ne sais pas si vous connaissez. On va se mettre ça en route. Et on va prendre le temps de prier et de demander à Dieu pour qu'on apprenne à être un monde solidaire.
solidaire, creuser des sillons d'humanité, prier les lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée.
On n'a pas le sixième. Il n'y a pas le sixième dans cet enregistrement. Pour comprendre le fond de Saint Vincent, je vais vous lire un de ses textes, assez paisiblement, pour comprendre comment il est habité par le zèle. Il est donc dit dans la règle de vie qu'il nous a donnée, il commente la règle de vie. Il est donc dit que l'on cherche le royaume de Dieu. Que l'on cherche, ce n'est qu'un mot. Mais il me semble qu'il dit bien des choses. Il veut dire de nous mettre en sorte que d'aspirer toujours à ce qui nous est recommandé, de travailler incessamment pour le royaume de Dieu, et non pas demeurer en un état lâche et arrêté. Faire attention à son intérieur pour le bien régler, mais non à l'extérieur pour s'y amuser. Chercher, cela dit soin, cela dit action. Cherchez Dieu en vous, car saint Augustin avoue que pendant qu'il l'a cherché hors de lui, il ne l'a pas trouvé. Cherchez-le en votre âme, comme en sa demeure agréable. C'est le fond où ses serviteurs qui tâchent de mettre toutes les vertus en pratique les établissent. Il faut la vie intérieure. Il faut tendre là. Si on y manque, on manque à tout. Cherchons, messieurs, à nous rendre intérieurs, à faire que Jésus-Christ règne en nous. Cherchons. Ne demeurons pas en un état de langueur ou de dissipation, en un état séculier et profane, qui fait qu'on s'occupe des objets que les sens montrent sans considérer le Créateur qui les a faits. Sans faire oraison pour se dépêtrer des biens de la terre et sans chercher le souverain bien. Cherchez donc, messieurs, et quoi ? Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons le règne de Jésus-Christ. Il nous dit comment il faut être vraiment pétri de l'intérieur. Pour avancer dans notre soirée, je vais vous demander qu'on puisse distribuer ce que vous voulez passer. Si vous voulez bien vous les passer, vous les distribuer. C'est un texte, enfin des textes que vous avez là, qui sont du coup sur la sixième vertu, la charité. Et je voudrais vous proposer, parce que c'est ce que disait Vincent, quand il dit quand on manque à la vie intérieure, c'est-à-dire quand on manque à l'oraison, c'est-à-dire la méditation. Aujourd'hui, on dit plus méditation qu'oraison, mais c'est vraiment ça que Saint Vincent nous invitait à faire. Et régulièrement, il nous invitait, nous les confrères, à faire ce qu'on appelle une répétition d'oraison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un temps de méditation, après, chacun était invité à dire quelles sont les petites perles que l'Esprit de Dieu a suscitées en vous dans votre temps de méditation. C'est-à-dire, aujourd'hui on parlerait peut-être un peu plus facilement d'un partage d'évangile, par exemple, hein, après un temps de... Voilà. Mais là, je voudrais qu'on prenne le... Ça serait très long, donc on va limiter la première partie. Mais nous allons prendre le temps de lire la première partie toute simple, là, le premier paragraphe. Et ensuite, je vous propose de rester vraiment en silence. Pendant, ça va peut-être vous paraître long, parce qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de faire silence ensemble, mais c'est ça la méditation, de faire 5 bonnes minutes en silence pour que chacun intériorise. J'ai plus de piles. Et les piles sont un peu faibles. Je vais continuer comme ça. J'ai pas pensé en reprendre. Donc on va vraiment rester en silence, en méditation, et après ceux qui le voudront, tranquillement, pas rentrer dans une discussion, mais simplement, moi voici peut-être une phrase, simplement reprendre une phrase et ça me touche, ou dire ce que cette phrase-là, cette idée-là, comment elle a, ça a progressé dans ma tête et dans mon cœur. Ça va ? Voilà, je fais la lecture à voix haute. Et après, nous restons en silence, en méditation. L'on a dit que c'est à l'oraison que Dieu nous fait connaître ce qu'il veut que nous fassions et ce qu'il veut que nous évitions. Et il est vrai, mes chères filles, car il n'y a action en la vie qui nous fasse mieux connaître à nous-mêmes ni qui nous démontre plus évidemment les volontés de Dieu que l'oraison. C'est là que votre âme, ralentie par les mauvaises habitudes, devient toute vigoureuse. C'est là qu'elle recouvre la vue quand auparavant elle était tombée dans l'aveuglement. Ses oreilles, auparavant étouffées à la voix de Dieu, sont ouvertes aux bonnes inspirations. Et son cœur reçoit une nouvelle force et se sent animé d'un courage qu'il n'avait point encore senti. D'où vient qu'une pauvre fille des champs, qui vient chez vous, grossière, dans l'ignorance des lettres et des mystères, est toute changée en peu de temps et devient modeste, recolligée, pleine d'amour de Dieu? Et qu'est-ce qui fait cela, sinon l'oraison? C'est une fontaine de jouvence où elle a rajeuni. C'est là qu'elle a puisé les grâces qui paraissent en elle et qui la font ce que vous la voyez. L'oraison, mes filles, c'est une élévation d'esprit à Dieu par laquelle l'âme se détache comme d'elle-même pour aller chercher Dieu en lui. C'est un pourparler de l'âme avec Dieu, une mutuelle communication où Dieu dit intérieurement à l'âme ce qu'elle veut qu'elle sache et qu'elle fasse, et où l'âme dit à son Dieu ce que lui-même lui a fait connaître qu'elle doit demander. Grande excellence, et qui nous la doit faire estimer et préférer à toute autre chose. Je vous propose un temps de remontée, de partage, tout simplement. Soit ce temps de méditation, soit peut-être sur ce qui a été vécu sur les cinq rencontres. Et alors, il y a toujours une grâce particulière pour la première personne qui prend la parole. Oui. Alors, on essaie de parler assez fort pour que tout le monde entende bien. Vas-y.
L'oraison, c'est un pourparler de l'âme avec Dieu, une mutuelle communication où Dieu dit intérieurement à l'âme ce qu'il veut qu'elle sache et qu'elle fasse. Et où l'âme dit à son Dieu ce que lui-même lui fait connaître qu'elle doit demander.
Que l'âme se détache pour aller à Dieu, aller à lui, à Dieu en lui.
Ouais, ouais, ouais. Que l'âme se détache pour aller à Dieu, ouais. Aller en lui.
Je n'arrive pas à comprendre. On parle à Dieu, mais l'âme, si nous on parle à Dieu, comment voulez-vous que l'âme puisse parler aussi à Dieu? L'âme, c'est quelque chose que nous avons en nous.
C'est plus que quelque chose en nous, c'est nous-mêmes, c'est quand même nous-mêmes, même quand nous parlons à Dieu, c'est notre âme, c'est le cœur du cœur de notre être, c'est ça, on n'est pas divisé en nous, justement comme Dieu est un, nous avons à tendre à cette unité en nous, entre le corps, l'esprit, l'âme, voilà, c'est tout un qui est à vivre là.
Alors quand nous parlons à Dieu, c'est l'âme qui parle.
Oui, si on est vraiment centré. En fin de compte, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à parler à Dieu. Parce que des fois, on peut parler, mais d'une manière peut-être un peu trop superficielle. On peut lui parler en disant « je voudrais ceci, je voudrais cela ». Enfin, on pourrait lui parler un peu d'une manière un peu capricieuse. Et plus on descend dans le mystère que nous sommes, plus on comprend qu'il y a des choses qu'il faut vraiment... C'est pour ça qu'il parle de se détacher. Hein, il parle aussi de ne pas s'occuper... Enfin, il ne faut pas faire comme les choses profanes. Voilà, donc c'est voilà, le profane, c'est tout ce qui est extérieur, et venir dans ce mystère que nous sommes. C'est ça que je trouve passionnant chez Saint Vincent. Il est vraiment un passionné de l'humain parce que c'est présence de Dieu, quoi. D'autres rêves, oui.
Et là, je me suis dit, waouh, je ne connais pas du tout ce que je suis en train de dire.
Moi non plus.
C'était voix de la sainteté. Alors je me disais, mais tiens, tu vois, il faudrait que tu fasses au réseau. On parle de ça il y a 10 ans en arrière, je n'ai toujours pas fait de réseau. Et là, je suis en train de lire un livre de Sainte Thérèse d'Avila, parce que c'est la sainte de l'année qu'on m'a choisie. Et je fais oraison depuis 15 ans.
Bien.
Et l'oraison consiste à faire sous la passion du Christ. Je trouve ça quand même assez étonnant parce qu'on est en plein carême. Et là, je me suis mise à faire ce que tu nous as demandé, oraison. Et là, j'ai vu mon ange gardien. J'en ai pleuré. Je partage quand même quelque chose de très fort. J'ai vu mon ange gardien qui était profil avec ses ailes. Et il m'a dit, viens, mets-toi dans mes mains. Mets ta tête sur ma main, à genoux, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et là j'ai entendu, je me suis dit en fait comme Jésus, qui est dans la barque, sur son coussin, et qui est dans la tempête, mais qui est tranquille. Voilà.
Merci. Parce que parfois, de fait, on peut avoir des expériences spirituelles fortes. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas tous les deux jours, mais il peut y avoir des expériences comme ça qui peuvent vraiment nous marquer. Et ce sont des expériences fondatrices en général qui nous permettent ensuite d'aller plus loin. Vous savez que Mère Teresa, elle a eu un grand flash avec le Christ, mais vraiment très très intense. Et une fois qu'elle a passé toutes les épreuves pour construire sa congrégation, enfin qu'elle a compris que Jésus les amenait à ça, après jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a plus jamais ressenti la présence du Christ. Il faut lire son bouquin, je ne sais plus comment c'est. Comment ?
Sois ma lumière.
Sois ma lumière, peut-être bien, je ne sais plus le titre. Mais c'était ses propres écrits, son cahier, quoi. Hein. Impressionnant. Voilà, on peut vivre quelque chose de fort, et ce n'est pas ça qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut, c'est continuer ce pour quoi on a été envoyé. D'autres remontées, d'autres goûts de partage pour les uns ou les autres ?
Ça nous a mis un peu les pendules à l'heure parce qu'on entend toujours et nous-mêmes, je n'ai pas le temps de faire ceci, de faire cela. Et là, de penser que l'horizon a une telle importance dans notre vie, ça va peut-être nous faire un peu ralentir dans nos...
Ben je vous le souhaite. Saint-Vincent qui a fait tant et tant et tant de choses, il passait 2 heures par jour à prier. Et il le dit bien, hein, celui qui loupe ça, il loupe tout. Celui qui est capable de prendre l'oraison, il arrivera à tout. Et on voit bien tout ce qu'il a fait. C'est impressionnant. C'est-à-dire que on peut se laisser complètement déborder dans le temps, ne jamais avoir le temps. Et voilà, tous les grands saints, la prière. Si tu n'as pas la prière, tu vas partir dans l'activisme. Voilà, c'est une sagesse à avoir. Oui.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Mère Teresa, justement, elle demandait à ses sœurs de prier tous les matins 1 heure avant de partir en mission. Une heure devant le Saint-Sacrement. Et donc, Dieu sait qu'elles étaient très affairées, elles avaient pas mal de choses à faire. Mais le missionnaire de la charité vraiment tient cet engagement. Et c'est ce qui fait en fait la fécondité de leur mission. On parlait justement du lien entre les malades et les missionnaires. Ou des personnes qui s'unissent à eux pour la prière. Et donc il y a vraiment cette dimension-là qui féconde leur mission. Quoi, vraiment.
Chez nous, lazaristes, en communauté, nous faisons. On fait souvent une demi-heure en commun et une autre demi-heure plutôt perso dans la journée. Mais on garde cette régularité de la prière méditative. Et en commun, c'est bon aussi. Quand on fait vraiment. Là, je voulais expérimenter un tout petit peu, et puis bon, on est un peu nombreux, mais c'est bon de dire voilà, on est à plusieurs à nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu.
Oui, c'est vrai, parce que le matin, quand on va au monde, on n'est pas nombreux, mais le fait de faire, en fait, c'est ce qu'on fait, tu vois, Isabelle, c'est ce qu'on fait, les psaumes.
Ouais, ouais, tout simplement.
Et ça apporte quelque chose.
Béni soit Dieu.
Nous, c'est pareil, quand on va faire des visites, on prie avant, on s'en apporte, on vient prier avant de.
Oui, c'est ça.
Prends le. Après, on demande à la personne si elle veut prier avec nous.
Très bien. Béni soit Dieu. Je vous propose pour conclure nos rencontres. Justement de reprendre un hymne, de nouveau on va la psalmodier, parce que ça nous dit un peu qui est le Christ, pourquoi il est venu, et voilà, c'est une manière de gloire à Dieu, puis de conclure un peu, juste avant la semaine de Pâques, enfin la semaine sainte. Et de nouveau on va refaire en alternance.
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom.
Afin que l'on de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers.
Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Et que le Seigneur nous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.